avez remarqué combien il est beau, combien il a été bien rénové. Vous avez fait le tour des corridors, alors on s'en excuse. Je me présente, Florent Jeanquin-Adenau, je suis professeure et directrice du Forum Urbain 2015 à l'UQAM, au département d'études urbaines. Et ça me fait plaisir de vous accueillir, conjointement avec Louise Levac, de Vivre en Ville, pour cette conférence urbaine qui porte sur un sujet qui va vous passionner. Nous sommes, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le Forum Urbain 2015, c'est une plateforme de réflexion sur les conditions de réussite des villes de l'avenir, qui se centre principalement sur le lien entre l'aménagement et les transports, et qui travaille autour des conditions pour réussir cela, dont les conditions de gouvernance et de financement. Alors, la conférence de ce soir s'inscrit, je vais présenter dans quelques minutes notre invité, s'inscrit dans la recherche d'exemples pour travailler à ce qu'on appelle la requalification des villes, la requalification des quartiers, en essayant de regarder ici comme ailleurs quelles sont les expériences réussies qui nous permettraient de progresser plus vite vers des quartiers, on dit des éco-quartiers, moi je préfère le terme plus général de quartiers agréables à vivre, durables, multifonctionnels et qui développent le sentiment d'appartenance au lieu dans lequel on vit et on travaille. Alors la conférence de ce soir, je laisserai Louise donc dire quelques mots à la fin. La conférence de ce soir s'inscrit dans un mouvement, vous avez le titre derrière, dans un mouvement « Comment favoriser l'autopromotion ». Ici, on connaît le terme « autoconstruction ». Alors, vous allez voir que le terme « autopromotion », c'est pas l'autoconstruction que l'on utilise ici et qui est en général pratiqué par des individus. Les villes allemandes, au cours des dernières années, des villes allemandes de différentes tailles, ont développé de nouvelles façons de créer des quartiers animés à échelle humaine. C'est ça l'objectif de la présentation de ce soir. Pour ce faire, elles ont repris la maîtrise du foncier, ce qu'on a de la difficulté à faire au Québec, dans les villes. Et elles ont mis une stratégie en avant de gestion des cœurs d'îlots. Et elles ont choisi pour cela, parmi différentes approches, une approche où elles vont soutenir de nouveaux acteurs immobiliers. Et c'est cette dynamique qui va être présentée par notre conférencier de ce soir. Ça permet de développer des immeubles correspondant à différents besoins, qui peuvent être des besoins de bureaux, de résidences, etc., à des coûts plus abordables et donc plus accessibles pour les citoyens et pour les personnes qui y ont accès. Ça favorise aussi la diversité architecturale à l'échelle du quartier. Alors, pour nous en parler, nous avons un invité spécial qui est en tournée au Québec du 19 au 25 octobre, Mathias Schussler, qui est architecte, urbaniste et ingénieur, qui va faire sa présentation en français, qui est co-fondateur de l'agence d'architecture et d'urbanisme de l'EN à Stuttgart, qui enseigne à Stuttgart et Nürtingen, qui donne des conférences, qui publie des ouvrages et qui s'intéresse particulièrement aux écoquartiers et aux phénomènes d'autopromotion. Je vais lui céder la parole. Il a, comme d'habitude, 50 à 60 minutes. Ça va être suivi d'une période d'échange après sa présentation, et je laisse la parole à ma collègue Louise Levac pour qu'elle vous dise quelques mots, puisque nous organisons ensemble, Vivre en Ville et le Forum Urbain 2015, cette présentation.
Oui, bonjour. Donc, je suis Louise Levac, la coordonnatrice recherche et formation chez Vivre en Ville. Alors voilà, nous sommes, si vous connaissez un peu Vivre en Ville, c'est un organisme qui cherche à inspirer les décideurs et les professionnels au Québec en prenant les meilleures pratiques un peu partout dans le monde. Alors nous, à l'occasion d'une mission de recherche que nous avons faite en 2012, il y a 2 ans, on a eu l'occasion de rencontrer, on était allé en Allemagne, dans le Baden-Württemberg, et on a eu l'occasion de rencontrer Monsieur Schuster, et on s'est dit, étant donné justement qu'il parle français, que c'était une excellente façon de vous faire connaître effectivement comment on conçoit des quartiers animés, des quartiers à échelle humaine. Et évidemment, il y a plusieurs façons de le faire, mais l'autopromotion est une formule en habitation qu'on pourrait fort bien importer au Québec. On a parlé d'écoquartier. Nous aussi, on a des réserves par rapport au terme écoquartier, mais c'est un terme qui est utilisé un peu partout. Alors, on s'en est servi notamment pour notre publication qui s'appelle « Donner vie aux écoquartiers, leçon des collectivités viables du Baden-Württemberg », le cinquième volume de notre collection. Et une partie des informations qui seront apportées dans la conférence se retrouve également dans ce volume. Alors, bienvenue à cette conférence et place à Monsieur Schuster.
Alors, merci Louise, et j'ai oublié de dire, c'est Louise qui va animer la période d'échange tout à l'heure.
Alors merci, tout est déjà dit. Merci madame, vous avez dit tout ce qu'il en faut dire, donc j'ai pu terminer. Ça commence comment ? Diaporama. Ah voilà, ça. Bon alors, merci beaucoup pour l'invitation, pour pouvoir venir ici au Canada, au Québec, pour vous présenter un tout petit peu ce qu'on fait en Allemagne. Je suis Matthias Schuster, je suis architecte et urbaniste. Je tiens, comme on a déjà dit, une agence d'architecture et d'urbanisme à Stuttgart, c'est la capitale de Bade-Württemberg. Bade-Württemberg, vous connaissez très bien sans doute. Petit pays en Allemagne, et je suis co-gérant de l'agence Leendrail qui a gagné à l'époque il y a une vingtaine d'années déjà le concours pour la nouvelle Südstadt de Tübingen, un projet urbain qui est notamment très connu comme un écoquartier dans les régions francophones plutôt. Je préférais de l'appeler un quartier un peu plus durable dans le sud de l'Allemagne. Et le titre, c'est favoriser l'autopromotion, une formule gagnante pour les villes. Alors pour nous, il y a un lien direct entre la structure, la stratégie de l'autopromotion et d'un développement durable des villes, parce que il y a certains aspects dans la stratégie de réaliser des projets en autopromotion qui rend possible une ville beaucoup plus animée. Donc, de quoi je parlerai non, des fois. Je vous raconterai un tout petit peu pourquoi est-ce qu'il faut de l'autopromotion, parce que c'est une question qui était posée partout en Allemagne. Dans le sud-ouest de l'Allemagne, il y avait les premières opérations avec dans cette stratégie, mais dans des villes comme Stuttgart par exemple, les villes un peu plus grandes, Stuttgart, 600 000 habitants à peu près. On a demandé pourquoi est-ce qu'il faut ça, on a des promoteurs, on a tout ce qu'il faut, pourquoi de l'autopromotion, pourquoi une autre forme de réalisation. Et je vous montrerai un tout petit peu comment on peut encourager, viabiliser les conceptions d'un urbanisme à l'aide de l'autopromotion. À l'exemple de Tübingen, le projet dont j'ai déjà parlé, il y a les instruments, il y a certains instruments, il y a certains aspects qu'il faut voir au niveau de plan d'urbanisme, alors au niveau du développement urbain qui est indispensable pour la réalisation en autopromotion. Et je vous montrerai un tout petit peu comment ça marche, comment c'est organisé dans les sud-ouest. Finalement, c'est une question qui se pose partout. Est-ce qu'on peut transférer cette stratégie? Est-ce que c'est une solution qui passe partout? Alors, vous connaissez Montréal. Et j'ai exagéré un tout petit peu. Le point est plus grand qu'en réalité. Ça, c'est Bade-Württemberg. Bade-Württemberg, c'est un des 16 pays de l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, État fédéral, il y a 16 pays. Le Bade-Württemberg est dans le sud-ouest. Il y a les frontières françaises dans l'ouest, et dans le sud, c'est la Suisse et l'Autriche qui sont des voisins. C'est un des plus grands pays ou un des plus grands landes, on les appelle en Allemagne. En Allemagne, il y a plus que 10 millions d'habitants, et vous voyez, il y a presque 300 habitants par kilomètre carré dans ce pays. Alors un pays assez petit par rapport au Canada, 3,5 habitants par kilomètre carré. Mais quand on voit la nuit, c'est un peu différent. Hein. On voit très bien l'Europe, et ça c'est Paris, et il y a Berlin ici, et il y a Stuttgart, c'est un de ces points-là. Et alors ça se voit très bien qu'il y a une densité qui peut être qui est un peu comparable peut-être avec les structures, avec les régions urbanisées au Canada aussi. Alors je me suis dit, peut-être y a-t-il les mêmes défis, les mêmes problèmes, alors les mêmes exigences qu'il y a pour un développement des beaux villes ou de nos villes aussi. Alors quelles sont les exigences dans nos villes? Dans la loi d'urbanisme en Allemagne, on a inscrit il y a une quinzaine d'années déjà qu'il faut une priorité à un développement vers l'intérieur. Alors on a dit on a tellement peu de ressources, des terrains, il faut réduire l'étalement, pas seulement à des causes de protection de la nature. Alors réduire les dépenses des ressources. Il y a aussi un aspect très économique. Le plus étalé, le plus cher les coûts d'infrastructure. En Allemagne, on perd d'habitants. Alors, les Allemands sont pas vraiment fertiles, ils sont un peu feignants. Il y a aujourd'hui 80 millions d'habitants. Dans 50 ans, on parle de 60 millions d'habitants. Alors, il y aura plus de Français que d'Allemands dans 30 ans. Alors, il y a d'un côté, il y a ça se vide. Hein, le pays se vide, mais il y a une tendance dont profitent les villes intéressées, les villes puissantes, les villes d'économie, les villes universitaires. Alors par exemple, c'est Stuttgart, c'est une ville très très puissante. Vous connaissez peut-être Mercedes-Benz ou Porsche, c'est localisé à Stuttgart. Alors une ville très très forte en économie, et évidemment il y a un mouvement vers Stuttgart qui est très important, mais ça, il y a aussi la ville de Tübingen, 90 000 habitants, localisée à peu près 40 km dans le sud de Stuttgart, ville universitaire, non pas industrialisée, mais administrative, universitaire, des hôpitaux, tout ça, très intéressée, une université qui a plus que 800 ans, et là aussi, il y a un mouvement d'habitants vers cette ville, tandis que les régions rurales sont s'évitent. Hein. Alors il y a plus un développement cohérent dans tous les pays, mais il y a une divergence notable dans ces développements, et c'est une chose que vous connaissez peut-être aussi ou un tout petit peu. Alors le développement intérieur, c'est assez important aussi parce qu'il y avait pas mal de changements les dernières décennies. Après la chute du mur il y a 25 ans, on a changé complètement de la politique. Les armées alliées se sont allées, ils ont quitté le sud, les Canadiens aussi. Il y avait des Canadiens dans le sud-ouest, à l'Arbre ou l'Endurin. les Français. Tübingen était secteur français, Stuttgart était secteur américain. À Stuttgart, il y a toujours les sites des troupes en Europe, mais à Tübingen, on a quitté les sites, on a dans beaucoup de villes où les armées étaient un facteur très important au niveau d'économie. On a laissé des casernes libérées pour un développement, et heureusement à Tübingen on a eu les casernes en pleine ville pratiquement, on peut faire quelque chose. Il y a des casernes dans l'est de l'Allemagne qui sont en campagne ou dans les forêts, on n'en peut plus rien faire. Alors les friches militaires, mais aussi il y a des friches de l'industrie à cause d'un changement économique envers les services, alors les tertiaires secteurs qui offrent beaucoup de possibilités dans des structures urbaines qui ont été arrondi, si vous voulez, au long de temps, hein, il y avait une entreprise qui était un peu hors de la ville, mais la ville s'était pendue, et donc c'est en pleine ville aujourd'hui. Et on a un autre aspect, ce sont les grands ensembles des années 50. Que vous connaissez aussi. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un grand besoin de réaliser des appartements. Il y avait les fugitifs, il y a les villes détruites, il y avait voilà un grand besoin de réaliser ça. Et il y a des ensembles qui sont très difficiles, qui se sont développés très difficilement, mais il y a d'autres aussi, comme celui-là, c'est à Offenburg, c'est près du Rhin, une grande ensemble des années 50, où ça marchait très très bien, c'était des appartements, des bâtiments à une bonne échelle. Il y a des gens qui y habitent depuis 50 ans, ils sont âgés, mais ils ont d'autres besoins aujourd'hui. Alors la mutation démographique, c'est assez important maintenant. Les appartements conviennent plus aux besoins d'aujourd'hui. Alors l'accessibilité, les salles de bains, tout ça. Et donc il faut trouver. Puisque ce sont des quartiers à une densité très très réduite, on peut trouver des solutions comment améliorer ces quartiers-là avec une certaine densité ou à augmenter la densité. Mixité fonctionnelle, c'est un mot clé peut-être pour notre travail dans l'urbanisme. Mixité fonctionnelle, c'est écolo. Hein, si vous voulez, hein, ça réduit les circulations, ça réduit la dépense des terrains, mais c'est de l'autre côté, c'est un objectif très très dur à achever. Hein, il y a les promoteurs qui font uniquement de l'habitation, et là, les promoteurs qui font uniquement des bâtiments d'administration, et donc, mais les deux, ça marche plus, hein, c'est ça. Alors, beaucoup d'exigences. On va continuer avec l'aspect comment est-ce qu'on pourrait réaliser des telles friches. Vous voyez ici, c'est Tübingen avec les casernes ici. On a constaté avec le développement par le développement de la Südstadt à Tübingen, surtout, c'était un projet pilote. Avec l'autopromotion, quels aspects est-ce qu'il faut considérer quand on veut réaliser des projets en autopromotion? Le premier aspect, c'est une conception de réaliser des bâtiments en propre responsabilité des futurs habitants qui est idéal pour les villes. Alors c'est pas une solution pour les lotissements ou pour des s'il y a un groupe qui veut réaliser un groupe de maisons mitoyennes, c'est pas le but. Hein, l'objectif pour l'autopromotion, c'est une situation en ville, ce sont des appartements en étage plutôt. Bien sûr des duplex, mais surtout en étage. On a fait ces expériences les derniers 20 ans qu'il faut trouver des sites qui sont intéressants. C'est un autre aspect qui est important. On peut pas réaliser l'autopromotion partout. On peut pas donner s'il y a une ville qui a un terrain qui n'est pas intéressant pour un promoteur, on peut pas donner ces terrains à un groupe d'autopromotion de soi, ça marche pas. C'est difficile. Alors il faut une certaine qualité. Il faut respecter ou faire attention au site. C'est où, c'est dans quel contexte. Et donc on a élaboré où on était puisqu'à Tübingen on a réalisé entre temps il y a plus de 150 groupes d'autopromotion qui ont été réalisés dans ces quartiers, je vous montrerai tout de suite, mais on était demandé de la ville de Stuttgart, de la capitale de Bade-Württemberg, d'élaborer un tout petit peu un petit mémoire, qu'est-ce qu'il faut pour encourager des projets d'autopromotion, parce que la ville de Stuttgart avait dit jusqu'il y a 10 ans, 5 ans à peu près, 7 ans, à Tübingen ça va, mais pas chez nous, hein, ça marche pas chez vous. Chez nous à Tübingen, les étudiants, les fous un tout petit peu, hein, écolos, ils ont des sandalettes, vous connaissez ça, Birkenstock, hein, on a ça. Mais à Stuttgart, on est sérieux, hein. On a une Mercedes et on est sérieux. Alors ça marche pas. Mais de l'autre côté, il y avait de plus en plus, il y avait des demandes, des gens, des familles. Vous faites rien pour nous. Il y a très peu de mouvements dans les bâtiments. Alors normal à Stuttgart, on a besoin d'au moins 1 800 appartements par an, et actuellement on arrive à peine à réaliser 1 000 appartements par an. Alors il y a un très très grand besoin, et de l'autre côté il y a très peu de ressources, il y a très peu de terrain à développer. Et donc on a demandé qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il faut pour réaliser aussi à Stuttgart un truc en autopromotion. Et ce qui est le plus important, on a constaté ça aussi à Tübingen, effectivement, c'est la volonté politique. Hein, on en a parlé tout à l'heure avant la conférence. S'il y a des personnages encouragés, peut-être entêtés un tout petit peu aussi, il faut être ça. Et surtout s'il y a une volonté politique, on peut démarrer un tel projet, parce qu'il faut des certaines structures, il faut des certaines stratégies pour réaliser un projet d'autopromotion. Il faut un plan d'action, il faut une structure administrative, c'est-à-dire il faut quelqu'un auprès des départements responsables, département d'urbanisme, du côté d'administration, qui s'occupe des tels projets, parce qu'il faut de la coordination, à qui donner les terrains, il faut surtout une coordination entre les différentes disciplines, département d'urbanisme, département d'infrastructure, les départements d'économie, parce qu'on vend des terrains qui sont en propriété de la ville. Il faut normalement un projet, un terrain qui est en propriété de la ville, donc il faut acheter ça. Alors il faut une structure administrative, et ce qui est important aussi, c'est ce qu'il faut un master plan, un plan cadre. Il y a plusieurs projets. Alors dans le sud-ouest de l'Allemagne, il y a beaucoup de projets d'autopromotion, tandis que dans le nord, il y en a un peu moins. Il y a à Hambourg, il y a notamment des projets à Berlin, à Munich, mais c'est pas vraiment répandu dans l'Allemagne. Mais il y a des années, on a essayé à Hanovre d'encourager les groupes d'autopromotion en leur donnant des terrains, s'il y a des terrains possibles, ou des terrains qui appartenait à la ville, mais c'était répandu dans toute la ville, donc les groupes ne savaient pas où ils auraient leur futur bâtiment, leur future maison, et ils savaient pas quand est-ce qu'ils pourraient avoir les terrains. Donc un projet urbain, un master plan, ça donne un site. Et en plus, ça donne une identification avec l'endroit. Et il y a les voisins, il y a d'autres, il y a d'autres groupes d'autopromotion qui font les mêmes expériences ou qui font d'autres expériences. Alors ça aide à donner à réaliser un échange. Stratégie foncière, c'est ce que j'ai dit. Effectivement, on a constaté que ça marche si le terrain appartient à un. Normalement, c'est la ville qui est propriétaire de ces terrains et qui peut donner, qui peut organiser les stratégies foncières. Combien de terrains donner à quel groupe? C'est très difficile de démarrer un tel projet sur un terrain privé parce que le propriétaire, il demande c'est qui. Bah, c'est un groupe. Et c'est qui les groupes? On ne sait pas encore. Donc ils vont pas. Et s'il veut vendre, il veut l'argent tout de suite. Alors il y a des aspects qui correspondent pas avec un achat d'un terrain privé. Voilà. Et le reste c'est un tout petit peu les instruments, les structures que je montrerai un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a fait à Tübingen avant de montrer le projet? On a dit les troupes françaises ont quitté les sites. La ville de Tübingen s'est décidée d'acheter le terrain militaire qui était propriété de l'État de l'Allemagne. La ville de Tübingen a acheté le terrain. Ils ont pu négocier un prix très très bas à l'époque. Ça allait. Aujourd'hui, ça marche plus. Et on a dit, on réalise ce développement urbain en propre responsabilité, c'est-à-dire on charge pas un promoteur qui fait le reste. Sinon, c'est la ville qui installe un département, une structure d'administration. Qui organise les plans de développement et en avance qui fait une conférence ou plusieurs conférences pour informer les gens, les citoyens, les futurs habitants, qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein? L'idée c'est de réaliser une ville animée, une ville de diversité, d'une mixité fonctionnelle. Voilà. Alors on a la ville a acheté le terrain et la ville a géré le revente. Alors on a aménagé le terrain, on a réalisé les infrastructures et on a vendu les terrains à des groupes d'autopromotion en allemand Baugemeinschaft ou Baugruppe, hein, Baugruppe. La stratégie classique, c'est il y a un terrain, il y a un promoteur qui achète tout le terrain, le promoteur réalise les bâtiments selon ses besoins, il vend les appartements ou les maisons à des gens, hein. Ça c'est classique. Ici c'était autre chose. La ville a coupé le terrain en plusieurs parcelles, a donné des réservations d'abord à des groupes d'autopromotion pour que les groupes d'autopromotion aient le temps de faire un planning pour leur projet. Et parce que normalement au début de l'autopromotion, ces groupes ne sont pas remplis, alors il y a quelques-uns qui ont une idée de réaliser quelque chose. Et donc il leur faut un certain temps et c'était garanti par la ville, par la réservation, et c'est le groupe d'autopromotion qui réalise une maison dans la ville. Hein, à petite échelle, c'est-à-dire de l'autre côté, vu de la ville elle a un contrôle direct sur ça, ce qui se passera sur ces terrains. Alors le contrôle n'est pas donné aux promoteurs, le contrôle reste à tout point à la ville. Voilà le projet. Une caserne Hindenburg, caserne des années 30 du 20e. L'ancienne caserne Loreto des années 10 du 20e et une route nationale qui traverse par ici et qui sera remplacée par un grand boulevard. Aujourd'hui achevé, on a réalisé cette partie ici, le bâtiment ici ont été réalisés ici, ce qui manque c'est ça là-bas et une toute petite partie ici parce que la route nationale n'est pas encore déplacée. Hein, où, au début de la planification, on a dit on va déplacer la route nationale pour qu'il y ait pour qu'elle déchire pas le quartier et sépare le quartier sud du reste de la ville. Mais on a constaté le déplacement en tunnel par ici, c'est un site national, il y avait des manifestations contre un déplacement. Alors, il y avait les gens de Tübingen qui voulaient le déplacement, et il y avait d'autres qui voulaient pas. On a discuté beaucoup, les coûts est monté et on n'a rien fait. Effectivement, on a décidé à Tübingen, il y aura un déplacement, mais on ne sait pas quand. C'est ainsi qu'on peut pas encore achever tout. Il y a en tout, c'est environ 65 hectares, et on en a réalisé environ 50 hectares de l'opération totale. Vous voyez, on a choisi une structure très urbaine. Alors il y avait pas seulement l'idée de l'autopromotion. Alors on n'a pas conçu un développement urbain pour réaliser de l'autopromotion. On voulait réaliser un quartier urbain dense, animé, varié, à l'aide de l'autopromotion. Alors l'autopromotion, les groupes d'autopromotion, c'était un outil pour réaliser les objectifs pour ce quartier-là. Vous avez ici un tout petit peu une petite idée du site de ces quartiers. Dans le sud, il y a le Neckar, il y a le château là-haut et la vieille ville qui est là-haut. Alors c'était un site un peu mal réputé. C'était des casernes qui étaient dedans. Il y avait les HLM autour après la Seconde Guerre mondiale, et il y avait très peu de médecins, par exemple, dedans, très peu d'infrastructures. Alors un quartier qui n'était pas vraiment intéressant pour les promoteurs. Et c'était un peu un point pour la ville de Tübingen de pouvoir décider de faire le développement en propre responsabilité, parce qu'à Tübingen, on savait, il n'y a pas grand intérêt, donc c'est nous, on va commencer et on va voir ce qui se passe. Voilà. Et quels étaient les objectifs? Vous voyez ici le quartier Loreto et le quartier français avec l'autoroute. C'est plus ou moins l'état actuel ici. C'est déjà réalisé. Alors ici, c'est achevé entre-temps aussi. Alors on voulait réaliser une ville d'une grande mixité, une mixité fonctionnelle. On voulait une grande variété d'architecture. On voulait pas une grande monotonie dans l'urbanisme. On voulait une flexibilité aussi des différentes structures. Alors non pas seulement une variété d'architecture, beaucoup d'architectes qui réalisent beaucoup de maisons qui sont très individuelles avec une grande identité. Sinon on voulait aussi rendre possible qu'il y ait beaucoup de modes de vie, de modes de construction. Il y avait ceux qui des personnes âgées qui se mis en groupe et qui ont réalisé un projet en autopromotion qui était dû avec des appartements idéaux pour les personnes âgées. Ils ont décidé de réaliser un petit appartement avec pour que leurs enfants puissent les visiter un deux fois par an. Et donc il y a des programmes très individuels et il y a des structures très 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 multipliques. Là-dedans. Ce qui était important, c'était la variété des structures. Alors, on a parlé tout à l'heure, on a parlé de l'échelle humaine. Hein. Ce sont des bâtiments pas trop grands, pas trop hauts. On a 6 étages au plus haut. Mais ce qui était important aussi, c'était l'espace public. Alors, on n'a pas voulu réaliser un ensemble qu'on a connu. Les ensembles selon les idées de la charte Athènes, si vous connaissez ça sans doute. Alors des bars, des espaces ouverts, des espaces pas attribués, alors des espaces verts qui sont ni pour les enfants ni pour les habitants directs, qui sont uniquement pour les chiens effectivement. Et Donc ici, on a voulu faire le contraire. On a décidé de réaliser des espaces publics, un espace public, site ou lieu de rencontre, l'endroit aussi évidemment de circulation. On n'a pas réalisé des aires piétonnées. Parce que on a tenté de réaliser une mixité fonctionnelle, c'est-à-dire tous les bâtiments, toutes les opérations ont été obligés de réaliser une activité au moins au rez-de-chaussée. C'est-à-dire on a une mixité très diversifiée dans ces quartiers. Mais il faut une accessibilité pour ces locaux. Donc pas de zone piétonne, mais des zones à vitesse très très réduite. Alors les modes de circulation piéton, vélo, voiture, c'est au même niveau. Donc avec ce projet, avec cette opération là, on a réalisé, la ville de Tübingen a réalisé où? Les Baugroup, les groupes d'autopromotion, ont réalisé plus que 550 projets dans ces deux quartiers-là, avec plus que 4000 habitants, et il y a plus que 1000 postes de travail là-dedans. Aussi à l'aide des bâtiments existants, vous voyez, peut-être on n'a pas écrasé tout, on a réhabilité les bâtiments existants, les anciens bâtiments de charge, qui étaient en bon état et qui ont été réhabilités tout de suite pour qu'il y ait dès le début de l'opération une activité dans ces quartiers. Alors on a élaboré le plan 4. C'était pas seulement un plan, une maquette pour démontrer c'est quoi découpage en petites parcelles. Hein, on connaissait plus. C'est quoi les différentes hauteurs si l'on veut réaliser en différentes hauteurs, et si l'on veut réaliser ce programme-là, espace public, définition des espaces publics, le bâtiment c'est le limite, espace public, espace privé, il y a rien d'autre. La mixité fonctionnelle, la diversité d'architecture, comment est-ce qu'on peut réaliser ça? On peut réaliser cela idéalement avec des groupes d'autopromotion, parce que c'est des groupes assez petits, une dizaine, une douzaine de participants peut-être. Il y a des groupes beaucoup plus grands aussi, il y a des groupes à 40 personnes, mais le normal c'est environ une dizaine, douzaine de personnages. On a pu exiger que ces groupes réalisent des locaux au rez-de-chaussée parce qu'il y a un système de subventions internes dans les groupes d'autopromotion. Les appartements situés plus haut, c'est un peu plus cher et en contraire, les locaux au rez-de-chaussée sont beaucoup moins chers. Alors ainsi, on a pu réaliser ces quartiers-là avec des espaces publics, hein, avec les cures d'îlots ici et avec des différentes hauteurs des bâtiments. Espaces publics, les espaces privés. Il n'y a pas de terrain commun. Hein, on a coupé les parcelles. C'était aussi les cœurs d'îlots ont été parcellés, mais on a défini par contrat d'achat qu'il y ait une utilisation en commun. Hein, une partie de terrain privé est à utilisation commun, et ici ça se voit très bien, il y a une partie de 5 mètres de profondeur qui est à utilisation privée, et le reste est donné en utilisation commun. Les projets d'autopromotion, c'est des projets que nous avons réalisés dans les quartiers, montrent une certaine qualité, parce que les groupes d'autopromotion, ils s'engagent pas seulement dans les structures de leurs appartements, ils s'engagent aussi évidemment dans la qualité de ces bâtiments. On constate qu'il y a une qualité élevé par rapport aux projets des promoteurs, et ça encourage de l'autre côté les promoteurs d'améliorer leur qualité aussi. Alors dans ce quartier, on a pas seulement réalisé des projets en autopromotion, il y avait aussi des promoteurs qui ont contribué une bonne partie de stationnement, par exemple. On a pu tirer un petit avantage de la puissance d'un promoteur. C'est lui qui a réalisé le stationnement, parce que dans ces îlots il y avait pas de stationnement souterrain. Si une parcelle est flexible et très petite, il y a des parcelles qui ont à peine 5 mètres de large, on peut pas réaliser des stationnements. Et si l'on veut une flexibilité, on peut pas imposer un garage souterrain. Il faut trouver autre chose. Et on a pu réaliser ça à l'aide des promoteurs aussi, qui ont réalisé les stationnements et qui ont calculé un prix très transparent mais réel pour les membres des groupes d'autopromotion qui étaient obligés par contrat d'achat d'acheter un parking chez les promoteurs. La mixité fonctionnelle, c'était une idée, mais c'était au début, on était pas vraiment sûr est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, parce que tout le monde a dit mixité fonctionnelle, ça marche pas, il y a aucun besoin là dedans. Et donc on a fait des petites études, est-ce que c'est quelle taille à Tübingen qui est recherchée. On a constaté qu'il y a surtout des locaux pour environ 4, dans la moyenne, 4 employés. Et donc la structure, qui est très petite des fois, permet d'offrir des locaux entre 30 et peut-être 200 mètres carrés. Alors c'était une variation qui normalement n'est pas sur les marchés des grands bâtiments d'administration, mais qui est très intéressant pour un secondaire par exemple, ou un petit local, ou un petit restaurant, ou un floriste. Un floriste en cinquième étage, ça marche pas vraiment. Mais ici c'est assez intéressant. Il y a même un croque-mort là dans le quartier. Alors il y a tout ce qu'il faut. Il manque le cimetière, mais on a eu la chance, mais effectivement on aurait trouvé une solution. On a eu la situation que les grandes surfaces sont directement à côté. Donc il n'y avait pas besoin de réaliser des grandes surfaces dans ce quartier. Voilà, activation des bâtiments existants. Ça aussi, c'est un groupe d'autopromotion. Activer des bâtiments existants, c'est pas pour les débutants en bas au groupe ou en groupe d'autopromotion, parce qu'il faut un financement qui commence très tôt, parce qu'il faut acheter le bâtiment. La réhabilitation d'un bâtiment, c'est pas forcément bien facile à calculer. Il y a des variations dans les prix. Mais il y a des groupes d'autopromotion qui font ça aussi. Alors quels sont les instruments? J'en ai déjà parlé, la responsabilité, la structure parcellée. Tout ça, c'était prédonné par le plan 4, par les structures, et on a élaboré les plans d'aménagement à l'aide des maquettes. On a défini des différentes hauteurs. Les plans d'aménagement n'ont pas fixé les fonciers. Et de ne pas fixer les fonciers, ça permet au groupe de choisir un endroit où aller et de dire il me faut 15 mètres de large, je vais aller là où un groupe plus petit peut se placer à un endroit où il y a une maison plus bas, où il y a 3-4 étages seulement, si le groupe est plus petit. Alors on a une flexibilité horizontale également verticale. Les différentes hauteurs, on a décidé selon des aspects d'urbanisme. Il y avait une grande place, il fallait une petite tour qui domine un tout petit peu cette place. Il y a les cœurs d'îlots qui sont assez étroits, donc il faut un tout petit peu baisser les étages d'un bâtiment dans l'ouest pour qu'il y ait plus de soleil dans ces quartiers. Alors la ville, le département, alors la structure d'administration, une stratégie très importante, a élaboré avec nous les plans d'aménagement. On a achevé les plans d'aménagement sans fixation des fonciers. Hein, c'était la seule chose qui manquait. On a divisé on a organisé des bourses des intéressés. Il y avait des architectes qui avaient des conceptions pour un projet. Il y avait des intéressés qui cherchaient d'autres. Il y avait déjà des groupes qui se sont mis ensemble, qui avaient une idée de leur future maison, et ils avaient la possibilité d'afficher un point sur le plan d'aménagement où aller. Alors, vous voyez ici, il y a beaucoup de points, donc on a préféré ça. Et il y a un autre côté où il y a moins de points. Et on a pu montrer son intérêt lors de ces bourses. Et après, la ville a fait une réunion avec les intéressés. On a contribué les parcelles. Hein, on connaît ça. On a fait des claims. Hein, on a clémé les îlots et on a dit bon, tu prends combien, il vous faut combien, ils prennent 16 mètres et il manque un demi-mètre, hein, il manque 50 centimètres, vous prenez un peu plus, vous prenez un peu moins, il faut quelqu'un qui prend l'angle, alors ça s'est arrangé assez vite. Et on a donné des réservations à des groupes. Réservation, c'est très important parce que ils avaient 6 mois de temps pour concrétiser leur planning. Alors trouver d'autres s'intéresser, trouver d'autres membres dans le groupe, mais aussi de chercher un architecte, élaborer la planification, vérifier les coûts. Et à bout de 6 mois, ils ont été demandés, vous êtes prêts? Ils devaient présenter leur conception et on a vérifié, la conception est la même ou était améliorée et donc ils pouvaient acheter le terrain. Voilà. Et ça, c'est dont j'ai parlé, le département, c'est la Kontaktstelle. Si vous voulez, ça fait partie de l'administration de la ville, mais il y a une certaine indépendance. Il donne des instructions à des différents départements. Il fait le contrôle envers les groupes d'autopromotion pour qu'il y ait un contrôle à tout point ce qui se passe en bas. Voilà les instruments. Ce qui est important aussi, c'est pas seulement le plan d'aménagement, mais beaucoup de choses ont été réglées par le contrat d'achat. Alors la mixité fonctionnelle, c'était réglé par le plan d'aménagement, mais le planning pour le cœur d'îlot, c'était réglé par un contrat d'achat. C'est-à-dire les groupes d'autopromotion étaient obligés de se mettre ensemble pour réaliser leur cœur d'îlot. Alors les riverains d'un cœur d'îlot ont été obligés de faire ça. On a beaucoup travaillé en avance. Il y avait beaucoup de conférences, beaucoup de presse, beaucoup de discussions en avance. Et on a bien sûr, on a accompagné le processus de cette opération par la presse, par des articles. Un peu important aussi, un budget séparé du budget de la ville pour que l'opération puisse avancer sans être dépendant de l'état de la ville. Effectivement, la ville de Tübingen a fait un petit bénéfice d'environ 2 millions d'euros avec ce quartier. Ça semble être pas beaucoup, mais il faut être conscient. Il y a 4000 habitants de plus. Hein, dans les 4000 habitants, il y a 2000 qui sont venus d'autres villes. Alors c'est les taxes. Hein. On a installé les infrastructures, école maternelle, crèche, évidemment rue, chauffage centralisé, tout ça, stationnement. Alors on a fait un grand investissement dans les quartiers. Et on a pu activer aussi l'économie locale, de sorte que c'est pas seulement les 2 millions qui sont dans le budget maintenant, c'est aussi les infrastructures qu'on a pu réaliser. La ville de Tübingen s'est décidée de continuer ce développement. La suite, ça s'est terminé, mais entre-temps, la ville de Tübingen a acheté un autre terrain, une friche industrielle, et a réalisé un deuxième quartier. Avec les mixités, avec les découpages en parcelles et avec la réalisation, surtout avec des groupes d'autopromotion, et c'est déjà achevé. Entre-temps, il y a un troisième qui a démarré alors à Tübingen, réaliser ou développer la ville à l'aide de l'autopromotion, c'est plus un petit aspect, c'est un aspect, une stratégie très très forte dans cette ville. Et c'est pour ça que je montre Tübingen, parce que Tübingen est en avance, beaucoup en avance dans ce genre-là. C'est un groupe d'autopromotion avec lequel nous sommes en train de réaliser deux bâtiments à Stuttgart. Mes collègues sont en train de finir les travaux là, donc les gens sont déjà habitent déjà dans ces bâtiments. Je vous montrerai alors un tout petit peu les structures des groupes d'autopromotion, parce qu'il y a des différentes stratégies. J'ai parlé de Munich et de Berlin et de Hambourg. À Hambourg et à Munich, il y a surtout des coopératives qui organisent les groupes d'autopromotion, mais en Allemagne c'est très compliqué d'installer une coopérative de nouveau. Donc la stratégie est normalement qu'il y a une coopérative existante et les intéressés pour l'autopromotion deviennent membres de la coopérative, et c'est la coopérative qui réalise un bâtiment dans un quartier. Il y a ça dans le Südstadt de Tübingen, il y a ça une fois. Hein, dans les 150 projets d'autopromotion, il y a un exemple de coopérative. À Munich, il y en a beaucoup plus. À Hambourg, il y en a encore plus. Alors, il y a des différentes stratégies. C'est ce que je vous montre. C'est la stratégie du Sud-Ouest, si vous voulez. Alors Fribourg, Vauban, où il y a aussi plus que 100 projets d'autopromotion entre-temps réalisés. C'est plus ou moins la stratégie sud-ouest, si vous voulez. Ce qui est important, c'est à la fin, c'est la société d'attribution, c'est-à-dire c'est la propriété. Hein, chacun est propriétaire de son appartement. Il n'y a pas de propriété commune. La maison n'appartient pas à tous. Chaque appartement appartient à chaque membre du Baugroup. On n'est plus Baugroup à la groupe d'autopromotion à la fin. On est société d'attribution à la fin. C'est assez important. Au début, ça commence avec les intéressés. Ça peut être informel ou une société civile déjà, un petit contrat qui décrit les objectifs. Les grands défis ou les falaises, l'échec de l'autopromotion, c'est pas à la fin, c'est au début. C'est-à-dire quand les intéressés changent trop souvent, si l'on n'arrive pas à trouver des objectifs en commun, on n'arrive pas à réaliser le prochain pas. Le premier projet qu'on a fait, c'était assez informel. Il y avait deux personnes, on discutait, on a décidé des choses, on a fait le planning. Et il y avait un troisième qui voulait autre chose. Et le premier, il est sorti du groupe et on a commencé de nouveau. Alors c'est très fatigant si l'on n'arrive pas à trouver une structure qui est assez sévère, assez structurée. Et donc ça montre aussi un tout petit peu la professionnalisation de l'autopromotion à Tübingen. Il y a aujourd'hui plus que 300 groupes d'autopromotion réalisés dans tous les quartiers dont j'ai parlé. Il y a une grande professionnalité du côté accompagnateur. Il y a une grande connaissance du côté membre des groupes d'autopromotion. Alors on connaît et on veut arriver le plus vite possible là-bas. On veut arriver à la propriété. Il y a pourtant, il y a des certains aspects, il y a les tailles d'appartement, il y a peut-être un appartement d'hôte ou autre chose, des utilisations en commun, mais surtout c'est avoir de la propriété à un prix notamment plus bas que par l'achat de chez le promoteur et avec un appartement qui est plus individuel. Alors la deuxième étape, c'est la groupe des conceptions. Là, on est déjà une société au plus tard, une société civile. On a un contrat. On peut chercher les architectes, on peut chercher l'accompagnement. On fait un planning jusqu'au permis de construire. C'est-à-dire on a les coûts concrets pour les projets. On a déjà les plans d'attribution pour les projets. Évidemment, on a la réservation aussi, c'est-à-dire on sait où l'on sera. Et de l'autre côté, on a environ 5% de coût total pour le projet. C'est-à-dire s'il s'agit d'un appartement d'environ 300 000 euros, c'est 15 000 euros à payer dans cette phase-là. Normalement, il ne faut pas un financement pour... c'est vrai? 15 000, c'est vrai?
Oui.
Merci. Oui, je suis architecte, je calcule mal. Alors ça fait 5%, c'est-à-dire dans cette phase-là, il faut pas des financements parce que de l'autre côté, vous n'aurez pas de financement. Hein, il y a aucune banque qui fait un contrat à cette situation. C'est quel terrain, c'est quel coût, hein, qui est-ce, c'est quelle taille. Ici, on n'aura pas de financement. Ici, ça commence à... On peut avoir un financement bancaire. Alors, à la fin de cette groupe conception, on peut faire les négociations avec la banque. On peut avoir un financement. Et c'est là que le groupe achète le terrain. Et ça aussi, c'est important pour la réservation. Et là aussi, il est important que c'est la ville qui est propriétaire du terrain, parce qu'un privé ne joue pas ça avec vous. Hein? Il jouera pas ça. Il accepterait pas ça. Attendre combien de temps? 6 mois, 9 mois, 12 mois. Hein? Alors la ville de Tübingen, on a attendu 6 mois. Et les premières tranches de développement, ça a duré 9 mois, ça a duré 12 mois, jusqu'à ce que le groupe ait trouvé était complet. Et donc la ville était beaucoup plus patiente. Et avec le premier réussite de ce genre de réalisation de la propriété, les gens ont constaté que c'est un système qui marche. Et ça a accéléré. Alors les tranches suivantes étaient réalisées beaucoup, beaucoup plus vite. Hein, au début, ça durait 3-4 ans jusqu'à un projet d'autopromotion a pu être réalisé. Et les dernières tranches, on a vendu, la ville de Tübingen a vendu les parcelles pendant 3 mois. Et à bout d'un an et demi, les bâtiments étaient achevés. Alors il y a une accélération qui est dépendante de la professionnalisation. En groupe de maîtrise d'ouvrage, là, ça coûte. Hein. Il faut payer les terrains, il faut payer les gros travaux. Tous les travaux doivent être payés. L'architecte, il veut de l'argent, des fois aussi. Et donc, c'est rare, oui, mais ça arrive. Et donc, c'est là que ça coûte beaucoup. Mais chacun qui aura son appartement à ce niveau-là, même à ce niveau-là, chacun sait où il sera son appartement. Mais les sociétés civiles, ici le groupe de maîtrise d'ouvrage, c'est pas divisé par millième ou par plan d'attribution. On est associé par appartement, un appartement, un associé. C'est important. S'il y a quatre appartements, il y a quatre associés là-dedans. Hein, si ce appartement est 150 mètres carrés et celui-là est à 60, ça ne change rien. Un appartement, un associé. Mais le groupe de maîtrise d'ouvrage, ça c'est la société d'ouvrage. Et quand le bâtiment est terminé, le groupe de maîtrise d'ouvrage donne les appartements à ses propriétaires. Ce sont les mêmes personnes. Mais au niveau, c'est une phase différente juridique. Hein. Ici, on est effectivement au niveau de droit, on a la propriété commune. Et après, on donne les appartements aux futurs habitants. Hein. Et ça, celui-là, ça c'est déjà réglé là-haut. Voilà. Pour régler tout ça, il faut quelqu'un qui souffre, qui essaie de modérer, de gérer ces processus qui sont pas toujours faciles. Il faut pas que ce soit un architecte. Des fois, c'est mieux si c'est quelqu'un qui a des expériences dans la modération, dans la médiation. Il s'est installé à Tübingen un groupe d'environ d'une dizaine d'accompagnateurs à peu près qui réalisent les bâtiments là-bas. Et ça, c'est une structure qui est, on a constaté, c'est très local. Hein, les accompagnateurs ici, drôlement, on pourrait dire, ils ont du mal à s'installer ailleurs, hein, dans d'autres villes. Hein, ça, c'est, on ne sait pas encore pourquoi c'est ça, mais il y a. Alors, c'est un petit défi quant à la possibilité de transférer ces structures. L'accompagnateur, il est le responsable ou il est le représentant du groupe d'autopromotion, alors des maîtres d'ouvrage. Hein, c'est pas l'architecte, alors c'est le partenaire de l'architecte. Des fois, on fait ça en même personne. Alors le projet que je citais de Stuttgart, là nous sommes les accompagnateurs et les architectes. Mais il y a une masse critique. Hein. S'il y a plus de 10, il vaut mieux séparer les deux responsabilités. Ce qu'il faut aussi, c'est les bases juridiques. Comme j'ai dit, les banques au début, ils disaient ah, on a mauvaise expérience avec des groupes d'autopromotion. Notamment, c'était ils n'avaient aucune expérience avec des groupes d'autopromotion parce que il y en avait très peu. Ça existait déjà dans les années 60, 70. Alors la structure n'était pas neuve, c'était pas inventé pour Tübingen. Ça existait. On n'a pas changé de règlement ni de loi pour ces structures-là. Mais il y avait une grande ignorance, on pouvait pas connaître les structures, comment ça marche. Donc il fallait des formes juridiques, il fallait des contrats exemplaires, et heureusement il y avait un avocat auprès de la ville de Tübingen qui a dit bon, je vais faire des contrats exemplaires pour installer les groupes d'autopromotion dans les différents stades. Et aujourd'hui ce petit bouquin c'est la bible de l'autopromotion en toute l'Allemagne. Hein, c'est toujours pratiquement les mêmes contrats qu'on a. Évidemment, on a ajusté, on a pu régler un tout petit peu pour professionnaliser encore. Alors c'est les banques, c'est les notaires, évidemment les villes qu'il faut convaincre qu'un tel projet peut être réalisé. Il y a les avantages, je suis pas seulement architecte, je suis urbaniste aussi, et donc pour moi les avantages pour la ville c'est ça compte un peu plus fort, mais il y a des aspects qui sont très 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 intéressants. Alors la mixité fonctionnelle, la variabilité, la diversité, la ville animée qu'on a pu réaliser là-dedans. Mais il y a une grande identité, une grande identification des habitants, non pas seulement avec leur bâtiment, mais aussi avec le quartier. Hein? J'étais dans à côté, il y a un petit café, et j'ai bu un café, et il y avait une dame qui m'a demandé, vous n'êtes pas du village, n'est-ce pas? Alors c'est, Hein, on est connu quand on est avec un groupe ici, visiter le quartier. À bout de 10 minutes, hein, on est au courant là dans le quartier. Alors, identité des habitants aussi avec le quartier. Et ça donne une stabilité très importante, une stabilité sociale très importante dans un tel quartier. Vous avez vu les groupes d'autopromotion, c'est surtout des propriétaires. Et au début, on a exigé aussi que les groupes d'autopromotion, que les membres des groupes d'autopromotion y habitent aussi. Parce que les terrains étaient très bon marché et la densité urbaine qu'on a a réduit encore les prix fonciers par mètre carré habité de l'appartement. C'est-à-dire, on aurait pu réaliser un appartement à un prix très très bas. Sans capital privé, uniquement financé par la banque, et on aurait pu louer l'appartement à un prix très très haut, parce qu'à Tübingen les prix les loyers sont très très hauts, et donc on voulait éviter cette spéculation, parce que c'était ça qu'on a voulu, hein, la stabilité, l'identification, et ça marche pas avec la spéculation. Mais on a constaté, à bout de 4 ans, on a constaté, il manque quelqu'un, il manque les locataires. Hein, il y en a pas. Il y a que des propriétaires, et donc on a ouvert un tout petit peu la possibilité de s'engager dans un groupe d'autopromotion pour louer l'appartement. Mais on a réglé par contrat d'achat. Et aussi par les livres foncières, que les loyers sont limités à un certain niveau pendant au moins 10 ans. Et ainsi on a pu réaliser des locations, des dons aussi. Et un autre aspect, il y a la société communale de l'habitation qui autrefois, il y a des années, a réalisé les HLM. Aujourd'hui, il y a très peu de subventions pour des appartements sociaux en Allemagne, très très peu. Et c'est très peu demandé aussi parce que les subventions sont pas vraiment intéressantes. Hein, c'est une subvention beaucoup trop petit pour qu'il y ait quelqu'un qui de réaliser ça. Mais il y a la société communale, il y a dans des grandes villes en Allemagne, il y a partout des sociétés communales de l'habitation qui sont chargées de réaliser les appartements à louer là aussi dans le quartier. Alors ils sont intégrés de sorte qu'on a une grande variété sociale aussi dans le quartier. Hein, si vous avez un projet d'autopromotion, ça c'est normalement c'est un peu autre chose. Hein. Puisqu'on se connaît, on est amis peut-être. Alors ça tous viennent du même coin, si vous voulez. Alors l'autopromotion, c'est politiquement dit, c'est tous les facettes entre vert foncé et vert clair. Hein. Politiquement, les verts. Vous connaissez les verts? Bon. Mais pour les habitants, il y a des avantages aussi. Réaliser en groupe d'autopromotion, ça fait, on peut épargner beaucoup d'argent. Les taxes foncières sont à payer uniquement pour le sol. On paye pas de taxes foncières pour les bâtiments. Parce que c'est comparable à quelqu'un qui achète un terrain pour y réaliser sa maison mitoyenne. Il achète, il paie les taxes foncières pour le terrain. Et après, il fait le bâtiment. Il faut plus payer les taxes foncières pour les bâtiments parce que ce sont deux étapes. Hein. Ce sont deux processus différents. Alors, ça fait pas mal. Ça peut être 20 000 euros. Les épargnes. Un promoteur, pour qu'il puisse travailler, il lui faut à peu près 15% de chiffre d'affaires pour d'un projet. S'il n'y a pas de promoteur, 15% de moins. L'accompagnement, ça coûte de l'argent, mais à peu près 5%, donc il y a 10% de moins. On peut faire des épargnes aussi avec la contribution des travaux en différentes lots. Alors il y a un entrepreneur général qui fait ça. Normalement chez nous c'est diversifié. Alors la construction la réalisation des bâtiments d'habitation normalement sont pas faits avec un entrepreneur général, mais divisés en lots. Alors là, on a de certains avantages, mais il n'y a pas seulement des avantages pécuniaires, il y a aussi des avantages de sorte qu'il y a la moyenne des appartements, la taille moyenne des appartements, c'est 105 mètres carrés dans la Südstadt. Alors c'est beaucoup plus grand. Dans la Südstadt, c'est le quartier avec le plus d'enfants à Tübingen. Alors on a la possibilité de réaliser parce que les prix sont un peu par rapport aux promoteurs, c'est plus bas. On dépense le même argent, mais on a un appartement plus grand ou plus individuel. Voilà, il y a plusieurs opérations dont on a où l'on a réalisé ces projets. Alors le frère de Tübingen, c'est peut-être Fribourg, Vauban, où l'on a aussi réalisé un quartier entièrement avec des groupes en autopromotion, mais sans mixité fonctionnelle. Il y a des mixités, mais concentrées, pas fonctionnelles partout. Alors les villes ont compris, puisqu'ils ont été demandés aussi, qu'avec de l'autopromotion, on peut gagner des habitants qui sont assez importants, très conscients de leur bâtiment, mais aussi très conscients de leurs environnements. Alors c'est surtout les couches moyennes qu'on aimerait attirer à habiter dans les villes avec de telles structures. Si ça marche pas trop avec les groupes d'autopromotion, on peut faire une stratégie une combinaison entre promoteurs et autopromotion. Nous avons réalisé ce bâtiment ici. On a fait un petit projet urbain pour la ville de Esslingen à côté de Stuttgart. Ici, il y avait le groupe qui était pas rempli. Alors, il manquait des gens. Et donc, la société communale de l'habitation est entrée dans les groupes d'autopromotion et a réservé 6 appartements de ces 11 appartements. Et ainsi, on a pu démarrer la planification, l'achat de terrain. Et en avancement dans la réalisation, on a trouvé des d'autres qui entraient dans le groupe d'autopromotion, et la société a donné ces mandats à ces gens qui ont entré. Pardon. Alors une structure qui montre aussi les synthèses ou les synergies possibles. À Heidelberg, à Stuttgart aussi. Alors on a appris aujourd'hui, on dit à Stuttgart, on veut de l'autopromotion et on fait ça avec un grand engagement. Aujourd'hui à Stuttgart, c'est un quartier dans le ouest de Stuttgart, en ville, environ 60 000 habitants dans ce quartier-là, un quartier qui est très recherché par les étudiants, mais les étudiants après les études, ils restent là. Parce que c'est très apprécié et donc il faut augmenter les offres ici, et puisqu'on enlève un hôpital ici qui sera reconstruit ailleurs, on peut réaliser un grand îlot en autopromotion, mais pas seulement en autopromotion. Il y a un promoteur qui réalise un grand surface. Voilà, un grand surface dans ce projet. Il y a un autre promoteur qui réalise la mixité fonctionnelle ici et qui réalise les appartements abordables, qui est obligé de réaliser des appartements abordables. Et il y a les baugroupes autour qui peuvent profiter des promoteurs parce que les promoteurs réalisent aussi les stationnements souterrains. Hein? Et comme j'ai dit, comme on a fait à Tübingen, le promoteur, il fait la calculation et il dit la place stationnement, ça coûte 25 000. Et par contrat d'achat, ils sont obligés dans les groupes d'autopromotion d'acheter leur place de stationnement chez le promoteur, parce qu'il faut que ce soit sûr que le promoteur puisse vendre ses places de stationnement. S'il fait pas, il va faillite. Hein, alors. Ça marche pas. Il faut que le promoteur va bien pour que la structure va bien aussi. Alors il faut les deux. Voilà. réaliser des propriétés en bas au groupe, c'est-à-dire autopromotion, ça exige un engagement exceptionnel de tous les côtés, c'est-à-dire il faut la volonté politique du côté ville, il faut les structures d'administration, les structures d'organisation d'un côté, et de l'autre côté il faut des engagés parmi ceux qui veulent réaliser. Et il faut une certaine professionnalisation de l'accompagnement, du financement, tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est surtout un projet urbain, volonté publique, projet urbain, structure d'administration, et on peut commencer. L'objectif, à la fin, alors l'autopromotion, c'est évidemment, il y a des gens qui peuvent réaliser leur rêve de vivre aussi, après une petite période de souffrance dans le groupe d'autopromotion. Mais l'objectif, c'est un quartier urbain et un quartier de caractère, effectivement. Merci. Ah, à peine une heure.
Merci. Donc, on va aller tout de suite à la période de questions, parce que j'ai l'impression que c'est un modèle un peu assez novateur qui a été proposé. Avez-vous des questions? Oui, Juliette. Vous pouvez vous identifier peut-être au début, d'ailleurs. Qui est-ce qui devient responsable? Ça a l'air d'être très complexe, et j'imagine que c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas ce genre de façon financée de façon courante ici, en tout cas.
Alors, il y a... Je réponds.
Pour les prochaines questions, effectivement, oui. Il va falloir aller au micro pour que ce soit enregistré.
J'essaie de répondre très vite. Voilà. Alors, il y a un système de sécurité dans la structure des groupes d'autopromotion, hein. Alors il faut pour pouvoir entrer ou changer de groupe de conception de planification en groupe de maîtrise d'ouvrage, il faut vérifier le financement, autrement on peut pas y entrer. Hein? On sort si on est chassé si l'on n'est pas capable de faire le financement. Alors il y a des différentes structures de sécurité là dedans aussi, avec des contrats avec les entreprises, tout ça. Alors il y a différentes sécurités là dedans. Ce qu'on voit, il y a beaucoup de groupes en Europe, en France, qui travaillent beaucoup de temps parce qu'ils trouvent pas un terrain, hein, et c'est pour ça qu'on dit il faut un projet urbain pour que le groupe puisse s'installer idéalement sur un site, et pour qu'on puisse entrer en réalité de la planification.
Oui, Jacques Landry, je me posais des questions sur ce qui arrive à moyen terme, c'est-à-dire qu'à court terme, il y a des avantages évidents pour les membres du groupe, avantages du côté pécuniaire, avantages de choisir initialement les gens qui vont être nos voisins. Mais si c'est comme partout, il va y avoir de l'évolution de ménage, des gens qui vont se séparer, des appartements qui vont se revendre. Est-ce que c'est plus stable que d'autres types de logements, ou est-ce que, une fois les avantages gagnés à l'acquisition, le reste est comme le reste du marché immobilier?
Alors, les quartiers à Tübingen sont très, très recherchés, hein. Ce que j'ai dit, le quartier de caractère, ça s'est installé. Alors, au premier plan, les appartements se vendent à un prix très très élevé. Mais vous avez raison, on a 15 ans de développement et il y a le premier changement. Hein, il y a des gens qui ont besoin d'un appartement plus grand ou qu'il faut déménager. Alors il y a un changement, il y aura surtout un changement social. Hein. Mm-hmm. Ça arrivera, mais pourtant, puisque c'est découpé en petites structures, il n'y a pas un changement massif, hein, il n'y a pas cette massivité. Il y a un qui s'en va et un autre qui suit, qui achète, qui loue peut-être. Hein, il y a des différents aspects. Mais ce qui tient, c'est la structure, la fonction, la mixité, la structure à petite échelle, le caractère.
Oui, merci.
Oui, bon, je crois que M. Landry a posé à peu près la même question que j'allais poser. Qu'est-ce qui arrive quand les familles agrandissent? Évidemment, vous parlez d'étudiants, ils vont se marier, après ça, ils font des enfants. Et c'est un peu comment ça évolue avec le temps, parce que les gens changent avec le temps. Peut-être quand ils ont acheté, il n'y avait pas de voiture, donc ils n'ont pas réservé le stationnement, mais là, peut-être qu'ils achètent une voiture, etc. Comment est-ce que, un peu pour renflouer la question de M. Landry, c'est comment est-ce qu'on s'adapte au changement normal, humain, on grandit, on modifie nos façons de vivre, etc.
Ben heureusement, c'est pas un quartier gelé, hein. Alors ça bouge toujours et c'est assez important et on pourra voir si. Alors à l'époque c'était projet pilote, aujourd'hui c'est projet pilote encore de changement. Est-ce que le changement sera une réussite ou non? Et on a l'impression que ça reste très très stable. Il y a beaucoup de familles, comme vous l'avez dit, qui ont un troisième enfant et il leur faut déménager peut-être. Et je connais pas mal de gens qui ont réalisé leur prochain appartement encore avec un bas groupe, encore avec un groupe d'autopromotion. Alors il y a pas mal d'entre eux, des habitants qui sont eux aussi professionnalisés dans les structures d'autopromotion. Je connais une personne qui fait l'accompagnement. Elle a réalisé quatre groupes d'autopromotion dès le début. Les derniers 12 ans, elle a réalisé. Elle était dedans, hein, dans plusieurs.
Ma question est, et peut-être pour la représentante de Vivre en Ville, ici, c'est quoi les freins? C'est quoi les difficultés? Est-ce que le plan, parce qu'on parlait d'avoir une vision politique, d'avoir un plan urbain, est-ce qu'il y a des facilités ou y a-t-il des difficultés particulières qui nous empêchent de développer ce type de
D'abord, il en existe des projets d'autopromotion. Il y en a un qui est un petit peu plus connu, qui est à Québec, qui s'appelle Cohabitat Québec. Cependant, à l'heure actuelle, c'est un petit peu marginal comme expérience parce que le soutien de la part des municipalités n'est pas forcément là. Monsieur Schuster a parlé de la maîtrise du foncier. Et effectivement, il y a beaucoup de municipalités qui passent à côté d'occasions qu'elle pourrait pourtant saisir de garder la maîtrise du foncier. Alors, ce qui manque, c'est peut-être en partie une volonté politique dans plusieurs municipalités. On s'aperçoit assez souvent que les élus, beaucoup d'élus, ont comme réflexe de dire « les promoteurs voudront jamais ». Comme si les promoteurs décidaient tout. Mais évidemment, c'est extrêmement important, cette pensée au Québec, alors que les élus pourraient décider autrement. Madame Junquet-Adenau nous parlait juste avant, dans une discussion qu'on avait, du cas de Sainte-Thérèse, donc du maire Élie Fallu, qui s'est organisé pour garder une maîtrise du foncier autour de la future gare, qui finalement... est née, la gare en question, ce qui fait qu'il a été possible, les promoteurs, semble-t-il, étaient furieux au début, mais par la suite, ce que ça a donné, c'est que ça a donné un quartier, une revitalisation qui est extrêmement intéressante, et finalement, les promoteurs, semble-t-il, étaient plutôt contents du résultat, puisqu'il y avait eu une orientation globale, mais il a fallu à ce moment-là que cet élu se tienne debout, puis impose en quelque sorte un projet. Nous, ce qu'on souhaite à Vivre en ville, c'est que les expériences comme celle de Cohabitat à Québec, les expériences d'autopromotion, qu'elles ne soient plus marginales, que les gens ne fassent plus face à une multitude de problèmes parce que les municipalités accepteraient de présenter ce nouveau produit immobilier sur le marché. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs les promoteurs, ce que M. Schuster, lors d'autres conférences, l'a bien dit, les promoteurs continuent à exister. Là. Il y a des promoteurs en Baden-Württemberg, mais ça coexiste en quelque sorte avec les groupes d'autopromotion et ça change la donne. Alors ici, on n'est pas tout à fait habitué, mais on pourrait le faire, c'est clair, et ça pourrait être autre chose que des projets marginaux. En tout cas, c'est ce que nous soutenons à Vivre en ville, c'est ce que nous prônons, puis c'est un peu pour ça qu'on se dit, ben, avec M. Schuster, on a eu une inspiration, disons. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose.
Il ne s'agit pas d'exclure les promoteurs, au contraire. Hein. Vous avez vu, une réalisation en autopromotion, ça ne remplace pas les promoteurs. Hein. C'est une stratégie pour des certains gens qui tient. Hein, voici la preuve que ça marche, mais dans l'avenir aussi, il faut des promoteurs parce qu'il y a pas mal de gens qui disent c'est pas tout à fait ça ce que je veux faire. Hein, je travaille, je fais, je veux pas et je ne peux pas m'engager dans un tel projet. Je veux acheter chez le promoteur, mais je voudrais bien profiter de ces structures urbaines. Alors c'est les structures urbaines qui ont l'importance et c'est l'acceptation des règles, hein, si l'on dit. On a une structure urbaine qui a une échelle assez mesurée, hein, pas exagérée, pas trop petit, pas trop grand, une échelle humaine, si l'on veut dire. Et si les promoteurs acceptent cette échelle, cette structure, ils peuvent réaliser ce qu'ils veulent. On peut même profiter, hein, parce que un promoteur, ça permet aussi une plus grande variété des personnages qui seront dans un quartier. Hein, c'est le promoteur qui peut assurer des appartements abordables. C'est pas forcément les groupes d'autopromotion. Alors il y a un grand aspect assez important là-dessus, mais c'est les deux. Le promoteur, il profite de l'identification, de l'identité et du caractère qui ont installé les groupes d'autopromotion. Hein, et les autres, les groupes d'autopromotion, ils peuvent profiter du promoteur parce que c'est lui qui réalise le stationnement, par exemple, hein, ou c'est lui qui fait partie pendant un certain temps dans un groupe d'autopromotion. Alors il y a des multiples possibilités co-travailler, complémentarité, voilà. Synergie.
Bonsoir. Synergie, bonsoir, merci pour votre exposé. C'était très clair et très inspirant. Je m'appelle Jimmy Lazer, je suis architecte et designer urbain. Et je m'interroge sur votre dernier plan. Je vous dis que c'est un quartier écologique, mais ce n'est pas parce que c'est forcément un groupe d'autopromotion que c'est un quartier écologique. Il faut qu'il y ait une volonté supérieure qu'un groupe de promotion pour décider que c'est un quartier écologique.
C'est pas un quartier écologique.
Voilà.
Ben, c'est une bonne question. Il y a d'autres qui disent c'est un quartier écologique. Moi, je dis c'est un quartier durable, parce que pour moi, un quartier durable, c'est plus qu'un quartier écologique. J'ai pas détaillé les conditions de contrats d'achat. ça va trop loin, mais on a exigé par contrat d'achat que le standard énergétique soit élevé d'au moins 15% par rapport les réglementations actuelles. Alors, les premiers bâtiments qui ont été réalisés il y a 15 ans, ils ont toujours le standard actuel aujourd'hui. La densité, ça veut dire, la densité urbaine, c'est un aspect d'écologie parce qu'on dépense moins de terrain. On a des bâtiments qui sont réalisés clos de l'autre. Ça réduit les murs extérieurs de 50%. On a les toits végétalisés. On a une chauffage centralisée. Il y a aussi des conceptions avec des chauffages en granules de bois. Il y a des panneaux solaires, il y a des projets avec des panneaux solaires. On ne pourrait pas citer tous les projets qui sont dedans. Et ça montre aussi la variété ou l'inspiration qui ont les groupes d'autopromotion, parce que c'était eux qui ont décidé on veut faire une maison basse consommation ou zéro consommation. Alors là, on a au niveau d'énergie, on est à une gamme très très haute. Hein. On a un standard très élevé dans ces quartiers. Mais pour nous, il y a d'autres aspects aussi. Travailler et habiter dans un quartier, ça réduit les circulations, c'est écolo. Hein. Alors vous voyez, alors les aspects qui sont importants d'avoir un espace intéressant, d'avoir des espaces publics qui servent à se rencontrer, à voir des gens, à avoir des activités dans le rez-de-chaussée. Ça aussi, c'est au même plan, c'est écologique.
Merci. Il est trop grand.
Bon, merci pour votre présentation, Monsieur Justas, c'est très intéressant. Mon nom est Jérémy Gravel. J'avais une question concernant le lotissement et les frais associés. Donc, lorsque les gens, les groupes du monde d'autopromotion décident de s'organiser et donc font lotir. En fait, il y a un endroit qui est loti. Comment sont fixés les coûts ou l'évaluation pour ces lots-là? Et au fur et à mesure, aussi une sous-question, au fur et à mesure que les gens s'établissent et que le quartier devient de plus en plus agréable au niveau du niveau de vie, est-ce que il y a une certaine forme de spéculation sur les terrains, étant donné que donc le quartier devient de plus en plus plaisant?
Bon, d'accord. Alors ça, c'est important parce que on a vendu les terrains à prix fixe. Hein, il y avait donc pas une offre d'achat de prix, mais il y avait une commission indépendante. Il y a des commissions dans toutes les villes en Allemagne. Il y a des commissions qui évaluent les prix des terrains. Et là, il y avait une commission qui a évalué les prix des terrains aussi et qui a fixé les prix pour les différents terrains. Un terrain où l'on a pu réaliser 6 étages, évidemment, c'est plus cher par rapport à un autre. Alors ça, c'était réalisé par une commission indépendante, mais qui a consulté les prix existantes. Alors c'était pas n'importe quoi, c'était vérifié. Et de l'autre côté, évidemment, on a, puisque ça fait 15 ans, alors les dates sont terminées, les premiers groupes d'autopromotion, ils ont le droit de vendre leurs appartements, ils peuvent les louer. C'était un marché libre maintenant, évidemment, oui. Mais c'est peut-être pas trop mauvais. Il y avait au début, il y avait des gens qui ont réalisé avec très peu d'argent et qui avaient peut-être eux-mêmes aussi très peu d'argent. Et maintenant, ils pouvaient vendre leur appartement à un bon prix. C'est pas trop mauvais parce qu'ils en ont besoin peut-être parce que maintenant, il leur faut un appartement plus grand. Alors, ça, c'est un processus qui est plutôt positif que négatif.
Mais la question par rapport à ça, c'était aussi, étant donné que le prix souvent de l'évaluation publique ou d'une commission indépendante est des fois un peu en deçà de ce qui est le prix avec la spéculation pour des promoteurs privés. Est-ce qu'il y a eu une certaine forme de grogne auprès des promoteurs privés ou est-ce que le prix qui était établi par la commission était un prix qui était bien accepté par l'ensemble des gens, des intervenants?
Alors, on ne faisait pas différence quant au prix foncier entre groupes d'autopromotion et promoteurs. Hein. Il y a un promoteur aussi pouvait demander un terrain, mais s'il y avait un groupe d'autopromotion, ils avaient la priorité. Hein, il y avait la priorité. À part ça, tout s'était équilibré. Hein, on n'a pas différencié entre autres promotions et promoteurs. S'il y avait un individuel qui voulait réaliser un bâtiment, nous avons réalisé une maison individuelle dans cette structure-là, 3-4 étages, avec un local au rez-de-chaussée. C'était un individuel, il était comme les autres aussi, alors tous sont pareils.
Juliette Patterson, pour en revenir à la question de la comparaison entre le terrain allemand et le terrain montréalais, et puis qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon que nous, on pourrait mettre en application ici. Qu'est-ce qui est, selon vous, les particularités, à part l'engagement des municipalités à acheter des terrains et les revendre aux groupes d'autopromotion, est-ce qu'il y a des particularités de la société allemande ou du contexte politique ou je ne sais pas exactement quoi, qui a favorisé en fait ce type de construction? Et si oui, comment ça pourrait s'appliquer ici?
Bon, je commence avec la dernière question et vous répétez peut-être la première après. Non, effectivement, à Stuttgart, par exemple, il y avait les demandes. Stuttgart, c'est une ville assez conservative. Hein. Il y avait un conseil municipal très conservatif. Et à l'époque, on voulait pas réaliser. On n'avait aucun intérêt de réaliser des projets en autopromotion parce que, à la longue, c'était des gens qui étaient plutôt libéraux, plutôt verts de l'orientation politique. Alors, on voulait pas encourager ces gens-là qui votent pas pour les conservatifs dans les élections. Heureusement, on a eu le projet Stuttgart 21 dont vous avez peut-être entendu parler. Ça a effectué un changement politique. Aujourd'hui, on a un conseil municipal qui est du côté vert et on a un maire qui est vert. Et ainsi, on a installé des structures de l'autopromotion. Alors, il y a un aspect politique. Hein, il y a ça. Hein. Il faut dire il y a ça. Il y a aussi peut-être une certaine crainte. Je crois pas qu'il y aurait ça ici à Montréal, mais dans le sud de l'Allemagne, les promoteurs et pas seulement les promoteurs, aussi les sociétés communales, ils craignent tout petit peu qu'il y ait peut-être une concurrence. Alors ça, c'est on peut pas négliger, il faut pas ignorer ça. Hein. Il y a des fois, ça existe. Mais avec les changements politiques, et on a constaté aussi avec les projets qui ont été réalisés que les gens dans les projets d'autopromotion, ce sont des gens tout à fait normaux. Alors ils travaillent, ils se lèvent le matin et tout ça. Alors ce sont des gens normaux et très souvent des gens un peu plus à l'aise aussi. Hein, faut dire aussi. Alors donc il y a plus de problèmes dans ce niveau-là. Mais à Montréal, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Il faudrait essayer de réaliser un projet urbain. Et j'ai fait un livre sur la qualité de l'architecture dans ces quartiers à Tübingen. Et j'ai parlé avec l'ancien directeur du département responsable pour le développement. Alors, on s'est vu régulièrement, mais il est en retraite. Et de temps en temps, on se voit et on discute un tout petit peu. Je lui ai demandé qu'est-ce que vous auriez fait si la stratégie avec l'autopromotion était un échec. Hein? Il a dit, on aurait travaillé avec des promoteurs. Hein? Mais ce qui était prédonné, c'était la structure urbaine. Hein? Ça, c'est ça ce qui importe, c'est la structure urbaine. Si vous changez de la structure, ça devient dangereux parce que tout d'un coup, vous avez des échelles qui sont plus fiables pour un groupe, pour un petit groupe. Hein? Donc, le plus important, c'est la volonté politique et la structure urbaine qui est conçue, une structure avec une grande flexibilité avec les espaces publics, espaces privés, tout ça. Si l'on fait ça, il est moins important si tous les projets soient réalisés par d'autopromotions, mais on pourrait, s'il y a un contrôle de la ville sur les terrains, j'ai dit un contrôle, hein, donc il faut pas que le terrain soit en propriété de la ville, mais il faut le contrôle sur les terrains, que s'il y a un groupe, qu'il ait la possibilité de réaliser son projet là-bas. C'est-à-dire priorité au groupe d'autopromotion, mais pas exclure les promoteurs. Alors, je crois qu'il faut travailler un peu plus stratégiquement.
Bonjour, Marie-France Bélec. Donc, pour faire une petite parenthèse avec les commentaires, physiquement, il faut savoir aussi qu'en Allemagne, vous en avez parlé au début, il y avait les casernes qui avaient été une super belle opportunité à avoir de la place. Nous, il faut voir c'est quoi nos opportunités. Est-ce que c'est le patrimoine religieux? Je ne sais pas, ça peut être autre chose. Mais maintenant, j'ai une petite question très facile. Le processus d'accompagnement coûte combien à peu près en pourcentage?
Des coûts entiers, environ 5%.
Donc 5% d'architecture plus 5%, parce que le 5% du
début... L'architecture, nous, c'est 10%.
C'est bon. Merci.
Je m'appelle Gilles Beauchamp. Si je comprends bien, la volonté politique est importante, mais aussi le contexte est différent dans le sens où, si on regarde les grands ensembles qui ont été développés ces dernières années, je pense, ceux que je connais dans l'Est, autour de Louis H. Lafontaine, l'hôpital qui avait des grands terrains, autour des Chopingus, entre autres, on a fait des grands développements. La norme qui s'est développée, ou disons l'habitude qu'on a vue, c'est que la ville fait affaire avec des promoteurs à qui on impose d'avoir un certain nombre de logements abordables ou encore un certain nombre de faire une place pour les logements sociaux ou le logement social entendu comme des coopératives ou des organisations sans but lucratif, hein, OBNL, Ecoop, puisque des HLM, il n'y en a quasiment plus. Donc, c'est comme si, finalement, en Allemagne, il n'y a pas ce secteur-là du logement social, OBNL, en tout cas, il y en a très peu. Il n'y a pas non plus de HLM, comme vous disiez.
Il y en a, mais c'est moins subventionné.
C'est ça. Hein. Et c'est comme si, finalement, l'autopromotion se situait entre les promoteurs qui font des grands nombres de logements standardisés. Puis, en fait, il faut faire alliance avec les promoteurs, mais aussi les OBNL qui sont des acteurs ici et qui ne voient pas toujours d'un bon œil, en quelque sorte, l'accès à la propriété, hein, parce que souvent on gère pour les pauvres, et puis quand on gère pas pour les pauvres, on le fait en coopérative. C'est une forme de propriété qui est pas nécessairement toujours appréciée par les autopromoteurs.
On rencontre des groupes cette semaine, là, dans ce sens-là, effectivement, pour leur faire connaître cette formule-là. C'est un nouveau produit, en quelque sorte, qui pourrait s'implanter.
Ben non, est-ce qu'il faut... Non.
D'autres questions, commentaires? Non? Bon, mais on vous remercie beaucoup d'avoir assisté à la conférence, puis on espère que ça vous a ouvert peut-être une nouvelle réflexion au plan de l'habitation. C'est effectivement une formule différente de la coop d'habitation et de la copropriété divise qu'on connaît beaucoup ici. C'est à mi-chemin entre les deux, c'est autre chose, mais ça demande effectivement d'être connu par les municipalités pour que ça devienne autre chose qu'une expérience marginale comme ce l'est présentement, pour que ça génère un peu moins de souffrance chez les gens, chez les intéressés à l'autopromotion. Alors, merci beaucoup et merci, Monsieur Fiscal. Merci. Bonne soirée.